Voilà, vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, l'émission donc Quoi de neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Et c'est la deuxième séquence que nous consacrons au festival Cité Philo, la semaine dernière avec Jacques Lemierre. On a parlé évidemment de cinéma avec lui. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de Cité Philo, on va accueillir deux personnes. L'une s'appelant Gilbert Glassman. Bonjour Gilbert Glassman.
Bonjour.
Donc fondateur de Cité Philo.
Oui.
Pour résumer, mais on approfondira les choses après.
Et
Nassim El Kabli, donc, qui est, on va dire, un spécialiste obligé là, hein, d'un thème qui s'appelle cette année d'IREFER.
Bonjour.
Bonjour, Nassim. Alors, on va se, vous voyez, on a dit, hein, pour l'émission, on a essayé de trouver un compromis acceptable pour garder une certaine distance, respect mutuel et possibilité, on va dire, d'avoir un peu de polémique si nécessaire avec la juste distance.
Exactement.
Voilà. Alors, donc, un festival qui, voilà, qui existe depuis bien longtemps maintenant, 23 ans, hein, c'est quand même, on va rappeler quand même que ça s'appelle, en dessous de Cité Philo, Semaine européenne de la philosophie, on est dans ce cadre-là,
oui.
Donc d'un concept européen. Est-ce qu'il y a une, je veux dire, en termes d'Europe, une dimension particulière pour la philosophie ?
D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que, vous savez, on distingue souvent la philosophie continentale de la philosophie analytique, qu'on pratique plutôt dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis.
Par le plus près, oui.
Ah, pardon. Voilà. Nous, dès notre ambition au départ de Cité Philo, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, c'était de contribuer à la constitution, enfin entre autres, c'est pas le seul objectif, mais d'apporter notre petit caillou à la construction d'une forme de citoyenneté européenne. Et des philosophes d'ailleurs sont venus quasiment de tous les pays d'Europe à Cité Philo.
Est-ce qu'on peut dire que la philosophie est née en Europe ?
Elle est née en Grèce, donc la Grèce, c'est en Europe, oui. Donc elle
ça
est
me
née,
semble
elle...
anachronique, tout de même.
Est-ce qu'on peut dire si on va à l'envers, est-ce que la Grèce, la philosophie en Grèce, a permis le concept d'Europe, d'une certaine manière ?
Ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, est-ce que la Grèce a permis l'Europe ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'elle a assurément permis, c'est la possibilité d'une parole, d'un logos, hein, comme on dit en philosophie, qui s'est diffusée, je crois, et qui a proposé un modèle universel qui va peut-être même au-delà de l'Europe. Mmh. Une certaine dimension cosmopolitique de la pensée.
Oui, alors, pas uniquement philosophique d'ailleurs, aussi bien scientifique, mathématique, logique.
Exactement.
Bien sûr. Mmh.
Alors, si on met ça en perspective avec les philosophies asiatiques, par exemple, comment on voit, est-ce qu'il y a une ligne de fracture nette ou bien est-ce qu'il y a des porosités ?
Alors c'est une très belle question à laquelle je serais incapable de répondre par ignorance. Hein. Je pense qu'il y a des modèles quand même de construction de la pensée qui se distinguent, hein, selon les cultures. Gilbert,
moi je ne connais pas bien les pensées asiatiques, mais il y a quand même des différences assez fondamentales. Par exemple, en Chine, il n'y a pas de « je », le « moi ». Donc ça induit quand même des formes de réflexion, de pensée tout à fait
Et si je dis
Descartes n'aurait pas pu naître en Chine.
Wo Aini.
Ben je ne comprends pas.
Ça veut dire « je t'aime ». Donc il y a un jeu quand même pour certaines choses.
Est-ce qu'il y a un jeu ou est-ce que c'est une traduction ?
Ah non, parce que quand on est plusieurs, on dit « woman ».
Oui.
Donc il y a une vraie différence quand même, hein, entre le jeu et le nous.
D'accord.
Voilà. Donc le tutoiement, ni. Il y a l'aspect aussi comme nous et enfin... Toi et vous, quand c'est la formule de politesse qui est Nin.
D'accord.
Donc il y a aussi une nuance là par rapport à ça.
Je suggère alors de rebaptiser les semaines chinoises de la philosophie.
Non, je pense qu'il faudrait un jour que des Asiatiques proposent un festival qui serait autour de la philosophie asiatique,
mais
qui pourrait être en correspondance un jour, ça pourrait être génial.
D'autant... Mais on peut parfaitement imaginer que Cité Philo, un jour, invite, entre guillemets, oui. La Chine, par exemple.
Oui, on a déjà invité. Invité.
Oui, Macron apprécierait. Hein.
Mais indépendamment de Macron.
Et non, Raffarin, également.
Non, mais Raffarin, vous savez, on a dans notre comité scientifique un philosophe qui s'appelle François Julien. Qui est un grand spécialiste de la philosophie antique et grecque, et surtout qui a un regard décalé sur la philosophie grecque et la philosophie occidentale, en passant par la Chine. C'est un grand spécialiste de la Chine, et il a écrit énormément. D'ailleurs, on souhaitait l'inviter cette année, puis malheureusement, il y avait un empêchement.
En tout cas, je l'inviterai dans mon émission Ondes de Chine.
Eh bien, très bien.
Hein, ce serait bien que vous me donniez le contact, et on va essayer de gérer une super émission sur la philosophie chinoise.
Et ce serait d'autant plus intéressant que ça permettrait de confronter des modèles de pensée,
bien sûr,
et avec tout ce que ça implique aussi en termes de traduction.
Alors, d'ailleurs, c'est le terme même de philosophie est problématique, parce que nous, on appelle ça philosophie, c'est un terme grec.
Exactement.
Est-ce que c'est le même concept qui s'appliquerait à la pensée chinoise?
Alors, la notion de pensée est intéressante. Oui. Est-ce qu'un philosophe pense?
Voilà une question troublante. Est-ce que le philosophe pense? En tout cas, il en a la prétention.
Voilà, c'est un penseur. Est-ce que c'est un métier penseur?
Je ne pense pas qu'il faille penser en termes, justement, de métier.
Donc c'est un talent.
C'est un talent qui se cultive.
Oui.
C'est un talent qui se cultive.
Quand on parle du talent...
On peut être penseur au chômage. Hein.
On parle maintenant beaucoup de talent oratoire. Il y a des concours, tout ça. Est-ce qu'il y a des talents de pensée? Il y a des compétitions de...
Alors, dans la mesure où le talent se cultive, donc suppose des règles, suppose des méthodes... Pourquoi pas, oui, on pourrait considérer qu'il y a une certaine forme d'exercice de la pensée qui relèverait de techniques.
Voilà. Et dans la philosophie, est-ce qu'on peut imaginer des courants qui s'affrontent, sinon se confrontent, enfin, ou réciproquement?
Mais c'est
un champ totalement agonistique. Oui. C'est vraiment ce que Kant appelait le champ de bataille, en parlant de la métaphysique. La philosophie, oui, effectivement, ce sont des...
Alors, je vais parler aujourd'hui plus spécifiquement dans le cadre de Cité Philo 2019. Ce qui m'est apparu, mais après, ce que je me suis troublé à la lecture du programme, c'est une vraie correspondance, voire une résonance entre la philosophie et la sociologie, voire l'ethnologie.
Tout à fait. Très intéressant. Il y a une correspondance très très forte et une proximité, une intimité très puissante entre ces différentes disciplines qu'on a tendance peut-être qui n'en formaient d'ailleurs qu'une
dans l'histoire. Hein. Elles se sont séparées au XXe siècle, mais
fin
du XIXe, début du XXe.
Sous l'impulsion d'Auguste Comte.
Notamment, voilà.
Voilà, effectivement, où la sociologie s'est donné une scientificité que la philosophie n'avait pas, en se donnant des méthodes de travail qui se rapprochaient un peu de la physique, du modèle de la physique.
Mais on a pas mal de sociologues, d'ailleurs, qui ont eu une formation de philosophe. Je pense à Bourdieu, qui a été le premier membre du comité scientifique de Cité Philo, qui a une formation de philosophe et qui ensuite s'est tourné vers la sociologie.
Nombreux sont les sociologues
qui
ont une formation philosophie. Oui.
Est-ce qu'on peut dire, pourquoi pas, en termes de champ de réflexion, que la sociologie, ça pourrait être les travaux appliqués de la philosophie?
Alors, je serais tenté de répondre oui, mais en réalité, il me semble que ce n'est pas tout à fait le cas, puisque aujourd'hui, on assiste, par exemple, à une certaine forme de nouvelles pratiques de la philosophie qui se veut une philosophie du terrain et qui ne s'identifie pas, qui ne saurait être confondue avec la sociologie. Je crois que ce qui les distingue fondamentalement, ce sont vraiment les méthodes, la manière de travailler, la manière de construire l'objet de pensée.
Et là, on est dans des champs d'observation, enfin cette année, au moins pour la partie cinéma, par exemple, où on va aller étudier l'homme au plus près de la nature. C'est forcément actuellement une question qui se pose.
Alors, cette question du rapport entre l'homme et la nature sera notamment étudiée par notre invité d'honneur, Philippe Descola, qui sera présent ce week-end, sauf erreur.
Oui, oui.
Et au-delà donc des interrogations de cet anthropologue, il y a bien sûr tous ces questionnements aujourd'hui autour de la nature, du rapport à l'écologie, notamment, qui se pose de manière urgente.
D'ailleurs, il sera entouré, Philippe Descola, de nombreux... à la fois des penseurs, par exemple de l'écologie, je pense à Catherine Larère qui va dialoguer avec Philippe Descola, mais on aura aussi des représentants des peuples amérindiens d'Amazonie, deux chamans qui vont être présents et qui viennent directement d'ailleurs du Brésil et de Guyane, Brésil amazonienne et Guyane amazonienne. Et qui seront aussi en dialogue avec Philippe Descola.
Alors, le chamanisme, c'est quelque chose que je retrouve maintenant quand je fais des interviews, notamment d'artistes. Certains vont plonger dans cette culture ancestrale dans laquelle ils puisent des sources d'inspiration intéressantes, je trouve. Est-ce qu'il y a un écho aussi par rapport à votre champ de réflexion ?
Alors, directement, non, on n'a pas cette question, sauf erreur, hein, je ne crois pas qu'elle apparaît dans le programme. En revanche, effectivement, il y a cette résurgence comme ça des questions liées au chamanisme ou à des pratiques ancestrales sont particulièrement d'actualité. Je crois qu'il y a un film récemment avec, je ne sais plus qui d'ailleurs, qui vient, avec Cécile de France, je crois, qui vient de sortir la semaine passée. Alors, concernant le programme de Cité Philo, ce ne sera pas directement traité.
Par contre, la nature, là on est dans des problèmes sociétaux et environnementaux qui sont manifestes. Enfin, maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas, comme dit l'autre. Est-ce que c'est un champ nouveau qui nourrit votre réflexion et peut-être se transforme en action à définir ?
Alors, on ne sait pas. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas, effectivement. Et ce qui est tout à fait intéressant et ce qui justifie d'autant plus la justesse et la pertinence du thème cette année, c'est que, pour reprendre cette formule de Manoni, d'Octave Manoni, que je trouve très éclairante, on sait, alors je sais bien, mais quand même, pour reprendre la formule de Manoni, on pourrait dire nous savons bien, mais quand même. On a beau savoir, on n'agit pas pour autant. Et c'est peut-être là où se mesure l'écart entre le dire et le faire.
Absolument.
Alors, le dire et le faire, c'est le thème donc de cette année, hein, Cité Philo. C'est vrai que, est-ce qu'il faut dire avant de faire, et est-ce qu'avant de dire, il faut déjà penser ?
Très belle question. Je ne sais pas si on peut, s'il faut penser, une sorte d'étape entre le dire, entre le penser et le dire, puisque la pensée se construit en se disant aussi.
Voilà, et en faisant, parfois.
Quand on parle avec des mots.
Et assurément en faisant.
Voilà. On parle avec des mots, et les mots, ils se construisent là-haut, dans la tête, dans la pensée.
Donc, ils se construisent, et ils se font dans l'échange. Voilà. Et c'est un peu l'esprit de Cité Philo, c'est même totalement l'esprit de Cité Philo, qui est une aventure collective. Et c'est ça que je trouve, moi, tout à fait intéressant, c'est que... On a une certaine conception de la philosophie comme pratique solitaire, alors même qu'elle est une aventure collective. Et en intervenant, en faisant ces rencontres avec le public, des philosophes, des savants, etc., eh bien, il s'agit précisément de produire de la pensée ensemble.
Et d'ailleurs, on apprend aussi plein de choses, nous, les organisateurs de Cité Philo,
Surtout toi, Gilbert.
Non, nous tous. Et par exemple, je parlais des représentants des peuples amérindiens, des chamans. On va les écouter, on va sûrement apprendre des nouvelles choses qu'on n'a pas encore perçues aujourd'hui. Mm-hmm. Donc c'est un work in progress en permanence, Cité Philo, y compris pour ceux qui l'organisent.
Et y compris pour les intervenants. À travers les échanges du public, moi je suis toujours frappé par la pertinence des remarques, pas nécessairement des questions, des remarques qui viennent compléter le propos de la pensée, c'est aussi de la mise à l'épreuve.
Alors,
voilà.
Justement, alors moi je viens parfois des conférences débats et je ne supporte pas. Je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer.
Ne supporte pas quoi ?
N'oubliez pas la distance.
Je ne supporte pas la restriction de parole dans les conférences débats. C'est-à-dire que une fois qu'on a posé une question, c'est bien rare de repasser pour une seconde question, voire approfondir la première. Alors qu'ici, en entretien radio, on peut développer une pensée au travers de questionnements. C'est pas possible en conférences débats et ça me frustre beaucoup.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand même, parce que moi, j'ai l'impression que d'abord, on a un public qui lui-même a beaucoup progressé. On a des, j'ai le sentiment que nous avons des questions de plus en plus intéressantes, pertinentes, riches, et qui donne à penser d'ailleurs.
Tout à fait.
Et on ne les élude pas. Après, on est limité, évidemment, on est limité par 2 heures de temps, donc on peut, voilà, on n'est pas dans un colloque, donc.
J'ajouterais que cette frustration que vous évoquez, que je comprends tout à fait, elle est corrigée tout de même parce que la discussion peut se prolonger avec les intervenants à la fin de la conférence, et elle est une frustration, je pense, nécessaire dans la mesure où il faut laisser la parole le plus possible à d'autres, et ça ne peut qu'enrichir, je crois, ses propres réflexions.
Mm-hmm. Et puis un petit peu de frustration de temps en temps, c'est pas mauvais.
C'est pas mauvais, non.
Quand on a après la possibilité d'exister.
Oui, bien sûr, évidemment.
Ça aiguise le désir pour revenir et poser sa question enfin.
Il n'y a pas de culture sans frustration.
Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu à la langue. Parce que, bon, a priori, dans un festival européen, j'imagine qu'il y ait peut-être plusieurs langues utilisées ou commentées. Hein. Mmh. Est-ce que, justement, une fois qu'on pense, on a un besoin dans la langue de trouver des mots qui correspondent à des pensées, mais des mots qui n'existent pas encore, est-ce qu'on peut les créer justement pour aller plus loin dans la pensée ?
Alors, c'est un débat tout à fait... c'est une question tout à fait pertinente et un grand débat en philosophie. Alors moi, je suis d'avis qu'il est parfois nécessaire de créer des néologismes, c'est-à-dire de nouveaux termes, de nouveaux concepts qui permettent d'épouser la complexité du réel. Parce que les mots disponibles ne sont pas toujours en adéquation avec le mouvement de la vie. Mais certains, je pense à Nietzsche notamment, qui en fera une critique sévère du néologisme. Hein.
Et donc, si je vais plus loin, est-ce que mettre à disposition du grand public la philosophie, c'est pas une restriction, d'une certaine manière, de la pensée pour, trouver un langage qui soit en correspondance?
Je suis en total désaccord.
C'est une question que je pose. Je n'ai pas dit que j'allais être d'accord.
Pas en désaccord avec vous, en désaccord avec cette idée. Ouais, je pense que c'est une amplification de la pensée. Loin d'être une restriction, c'est une amplification. C'est pas un nivellement par le bas, en fait, que de rendre public et de diffuser la pensée au plus grand nombre. Je crois qu'au contraire, c'est... Moi, ce qui me fascine dans ma pratique d'enseignant, j'enseigne la philosophie au lycée, notamment, à Tourcoing, l'exigence intellectuelle qu'il y a à reconduire la pensée dans ses éléments les plus fondamentaux, les plus élémentaires, dans les expériences les plus quotidiennes, est sûrement l'exercice le plus difficile.
De toute façon, on demande un certain effort à notre public. On a.
Il le demande lui-même.
Il le demande lui-même. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette manifestation Cité Philo tient le coup depuis si longtemps. C'est qu'on n'a pas cédé justement sur
l'exigence
de... Alors, exigence ne veut pas dire incompréhension. Enfin, c'est... On essaye de tenir une ligne assez étroite entre une exigence intellectuelle forte et une accessibilité pas à tous, il faut être honnête.
Je dirais même dans le prolongement de ce que tu dis, Gilbert, donc dans le prolongement de ce que vous dites, Gilbert, je dirais que le propre de la philosophie, c'est de pouvoir prendre de la hauteur sans être hors sol. Voilà, et je crois que l'exigence, elle est là, elle est dans cette bonne distance entre le concept, l'expérience et l'adresse à autrui.
Quand on dépasse leur sol, est-ce qu'on est dans le mysticisme ?
Je ne sais pas si on peut être dans le mysticisme. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Ou en tout cas, on est dans ce que Hegel appelait la mauvaise abstraction. On n'est peut-être plus dans la pensée.
Je suis d'accord avec toi.
Bon, on peut être d'accord parfois. Alors, donc, on va revenir de manière pratique à ce festival. Hein, oui. Donc, 23e édition, on l'a dit. Quels sont les... Parce que ça a démarré la semaine dernière. Il faut quand même dire que c'était jeudi, le lancement.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut encore apprécier dans les prochains jours ?
Ah ben, il y a énormément de choses. Il y a 119 tables rondes, rencontres et tables rondes. Actuellement, donc, on est on a passé à peine le quart de la manifestation. Donc, il y a Vous savez, Cité Philo se construit autour d'un certain nombre d'axes. Hein, il y a le thème principal, donc où il y a, là on a une quinzaine de rencontres sur ce, sur le thème. Là on en a déjà, eu 5-6 rencontres autour du thème. Donc il en reste 10
références, hein, c'est ça.
Voilà, on a notre invité d'honneur, Philippe Descola. Mm-hmm.
Il y a l'actualité éditoriale.
L'actualité éditoriale, 60 livres que nous allons mettre en avant. Donc là c'est très diversifié. Avec
notamment un livre demain, notamment Chantal Jacquet qui sera présente demain pour la présentation de son
tout
livre.
Petit. Question, est-ce qu'il y a des prix comme Goncourt, tout ça, en philosophie?
Alors, écoutez, pas vraiment.
Et pourquoi pas? Avec Cité Philo, vous pourriez le faire l'année prochaine.
Pas une mauvaise idée. Hein,
non, mais c'est une idée...
Merci.
Non, nous avons lancé en 1998 le premier prix, le prix du premier essai de philosophie. Il a été attribué d'ailleurs à Pierre-Henri Castel pour La querelle de l'hystérie. On a visé un peu haut parce qu'on avait accordé un prix bien rémunéré et qu'on n'a pas été en mesure de poursuivre. Donc on a arrêté. Mm-hmm. Mais oui, on pourrait tout à fait imaginer un prix. Il y en a d'autres hein, qui ont. Il y a eu un prix qui a été lancé il y a quelques années, mais je crois que ça n'a pas suivi. Il faut dire que la vente de livres de philosophie, c'est pas pour les. Il n'y a pas des tirages, sauf exception, il y a rarement en philosophie des tirages aussi importants qu'on peut trouver en fiction.
Mais je vois, par exemple, dans certains prix littéraires, pas tous, mais c'est autant une reconnaissance, on va dire, donc un appel aussi pour le public à aller s'intéresser à l'auteur, que financièrement, le prix... Bon,
bien sûr.
Mais, financièrement très intéressant. Maintenant, il l'a été peut-être il y a 50 ans, 30 ans.
Il a au moins une valeur symbolique très forte. Ouais.
Donc peut-être, ça peut être moins cher que prévu.
Envisager de...
Écoutez, en tout cas, si on le fait, on demandera à l'heureux élu de venir le présenter à
ici,
Radio
en
Campus.
Direct, bah oui, évidemment. Un grand
et vous lui remettrez le prix.
Le prix Radio Campus de la philosophie, alors.
Pourquoi pas? C'est une idée que vous lancez.
On va faire un partenariat avec Radio Campus. On va le noter. Parce qu'on a plusieurs émissions qui accueillent de la philosophie. Bah oui, on a eu Jean-François Rey qui est venu cette semaine. La semaine dernière, il y avait Jacques Lemire. Et puis, il y a Françoise Objoit, de temps en temps aussi, qui accueille des gens, donc et puis et François Hyde qui vient de temps en temps. Enfin, je veux dire que en termes de radio, on est au nord de Paris, peut-être une des rares radios à parler de temps en temps de philosophie. Est-ce qu'il faut en parler tout le temps? Bonne question.
Est-ce qu'il faut en parler tout le temps?
Il faut en tout cas prendre le temps d'en faire.
Mais il faut en parler surtout quand c'est nécessaire et que c'est intéressant. Donc, si on fait ça à longueur. De temps, c'est difficile, la philosophie. Une radio purement philosophique, ça va être compliqué, non? Est-ce qu'il y a une chaîne de philosophie, par exemple YouTube, tout ça?
Il y a la chaîne Cité Philo.
Il y a la chaîne Cité Philo.
Parlons de la chaîne Cité Philo.
Il y a une chaîne YouTube Cité Philo.
Qu'est-ce qu'on y retrouve?
On essaye, dans la mesure du possible, d'enregistrer, soit en audio, soit en vidéo, toutes les séances de Cité Philo. Et elles sont consultables en archive jusqu'à saturation du serveur qui n'est pas encore saturé. Donc, pour l'instant, on peut écouter...
Si c'est YouTube, il n'y a pas de saturation. Hein.
Non, il n'y a pas de saturation.
Donc, on peut y aller.
Il y a le soundtrack, c'est ça.
Pour l'instant.
Non, c'est-à-dire, avant, on n'était pas sur YouTube, c'est pour ça.
Maintenant, vous pouvez. Hein.
Oui. Et là, par exemple, actuellement, on a passé un accord avec une boîte de production qui s'appelle Gorgone et qui nous permet de mettre à disposition du public dès le lendemain les enregistrements de la veille. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on peut écouter toutes les séances de Cité Philo qui ont eu lieu jusqu'à hier.
Elles sont toutes enregistrées.
Ouais. Gorgone, qui est une vieille société de production de la région, qui fait un sacré boulot, quoi. Chapeau.
Chapeau.
Ah, bravo. Donc on est dans la contemporanéité technologique déjà avec Gorgone avec la pensée qui est universelle et qui défie le temps, la philosophie.
Effectivement, un défi lancé au temps. Alors dans la perspective de Cité Philo, je dirais même qu'elle a un défi lancé à l'espace, hein, puisque Cité Philo, c'est faire de la... C'est produire de la pensée, faire de la philosophie partout, dans les lycées, dans certains lieux culturels, mais pas seulement à Lille, à Tourcoing, à Roubaix, mais pas seulement dans le Nord, dans le Pas-de-Calais également, pas seulement dans le Nord-Pas-de-Calais, mais également en Picardie. On est vraiment présent dans toute la région Hauts-de-France. Et Voilà le défi, effectivement. Donc, à la fois un défi de viser vers l'universel et de construction dans le temps, mais aussi dans l'espace.
Et puis d'appropriation par le grand public.
Et d'appropriation par le grand public, tout à fait.
D'ailleurs, on a eu une très bonne séance sur l'espace et le temps, sur l'espace-temps, avec Étienne Klein, le physicien, qui nous a parlé du vide, de quoi le vide est-il plein.
Exactement.
C'était la question où la physique rejoignait la philosophie.
Alors, il y a eu un temps peut-être à définir où la philosophie, où les mathématiques rejoignaient la philosophie, à voir. Oui. Mais notamment, ébloui, il y a deux choses qui m'ont ébloui dans les mathématiques, c'est le moment où le zéro est apparu, qui est un concept très particulier, et puis le moment où on a inventé les nombres complexes, dont les nombres imaginaires. Ça m'a bluffé. Franchement, il y a un bouquin qui vient de sortir, j'en parlerai peut-être dans une prochaine émission. C'est en gros toute l'histoire des mathématiques et une page par...
jusqu'à l'axiomatique.
L'invention du zéro comme l'invention des nombres imaginaires ou complexes, c'est né d'une nécessité de la pensée. On était devant un mur, il fallait dépasser ce mur. Et par la pensée, on s'est dit comment dépasser. Le zéro est devenu indispensable pour pouvoir avancer. Voilà. Et les nombres imaginaires
évidemment.
Aussi.
Donc c'est ça, est-ce qu'on peut dire que c'est une caractéristique du génie humain?
Le zéro?
Non, le fait de trouver des solutions.
Ah oui.
Et d'avancer.
J'ajouterais même de produire des problèmes. Je crois que le génie humain se définirait par sa capacité à inventer des problèmes.
Est-ce que si on n'inventait pas des problèmes, on saurait les résoudre quand ils se présentent sans les avoir prévus?
Pour résoudre un problème, il faut quand même déjà le formuler correctement. Et ça, c'est une des tâches de la philosophie, je pense.
Tout à fait.
De bien formuler ce qu'on appelle formuler des bonnes questions. Une fois qu'on a la bonne question, on peut déjà avancer vers la solution.
Mais ce que je veux dire, c'est que toute cette réflexion qui peut paraître inutile parfois, de concevoir des recherches sur certaines formules mathématiques, elle dénote une adaptation de l'esprit à aller plus loin, mais aussi, en cas de besoin, de pouvoir mobiliser ses compétences et ses connaissances, non ?
Oui, bien sûr, oui, cette capacité à s'adapter, mais pas seulement qu'une capacité à s'adapter, aussi peut-être qu'il y a dans ce génie humain, pour reprendre votre terme, à construire des problèmes et à trouver, ou en tout cas à s'efforcer de trouver des solutions, il y a aussi, ce qui est fascinant, c'est cette expérience du vertige. Dans lequel la pensée se trouve être en prise et duquel il faut sortir.
Je crois que l'humain a besoin de se confronter à des problèmes qu'il ne sait pas tout de suite. Il a besoin d'aller toujours au-delà, comme on a besoin de monter sur une montagne sans raison particulière. En mathématiques, c'est particulièrement vrai, puisqu'on cherche des choses, personne ne nous demande de chercher quoi
donc,
que ce soit.
En quelque sorte, quand ce n'est pas utile, ça approche la poésie.
Ah oui, on pourrait dire ça, je suis assez d'accord avec cette proposition.
Bon, on peut peut-être rester là-dessus. Et d'accord. Sur le rappel du programme pour les prochains jours, alors, de Cité Philo, pas seulement l'île intramuros.
Non, bien sûr, on est dans toute la région de France. Donc on est évidemment à Lille, on est sur toute la communauté urbaine, on est à Arras, on est à Amiens, on est à Compiègne, on est à Saint-Quentin, enfin on est dans de très, très nombreux lieux, on est dans une quarantaine de lieux différents.
Et les programmes sont vraiment disponibles à peu près partout.
Voilà, et puis il y a aussi le site internet.
Le site internet, www.citéphilo.org.
Et puis pour ceux qui auraient manqué les séances précédentes, il y a la chaîne YouTube.
Il y a la chaîne YouTube, voilà.
Vous nous gâtez.
Et puis il y a quelques très belles rencontres à venir, voilà.
Alors quand je dis vous nous gâtez, c'est en plus pas cher, quoi.
Ah non, c'est gratuit.
C'est absolument gratuit, sans réservation. Donc ça peut être une impulsion de dernière minute.
Oui, ce qui a aussi des fois des effets un peu compliqués, parce que sans réservation, des fois, on a trop de monde et malheureusement, il faut arriver un peu à l'avance.
La rançon du succès.
Voilà, donc arriver en avance, cher public. Mais ne manquez pas déjà de lire le programme pour voir ce qui vous intéresse. Et si jamais vous manquez une séance, il y aura le rattrapage via la chaîne YouTube.
Absolument.
On a compris. Merci à vous deux. Je rappelle que vous étiez alors Gilbert Glassman, fondateur de Cité Philo, et donc charge aussi du partenariat avec l'île 3000, dont nous sommes aussi partenaires cette année.
Oui, je n'avais pas parlé de l'île 3000, mais effectivement, nous avons 7 rencontres en partenariat avec l'île 3000.
Voilà, et puis nous étions avec Nassim El Kabli, donc, voilà, qui...
Un grand merci.
Qui est l'avenir de ce festival, je l'ai bien ressenti comme ça.
Et j'ajoute un dernier mot, c'est que Nassim, comme quelques autres, ce sont des jeunes philosophes brillants qui montent, qu'on essaye de faire venir dans l'association, parce qu'il faut toujours du sang neuf.
Voilà. Ah ben ça, je suis bien d'accord. Voilà. Merci à tous et très bonne soirée. Merci.
À très bientôt.